Chevrolet.
RVE, bonne matinée. Il est 10h.
Le point sur l'actualité nationale et internationale.
Loi antiterroriste, industrie et vegan, voilà ce dont on a parlé cette semaine, avec plusieurs articles de la nouvelle loi antiterroriste qui ont été votés cette semaine par les députés. Facilitation des perquisitions à domicile, élargissement des contrôles d'identité à proximité des aéroports, 20 km à la ronde. Des dispositions dont l'ONU s'inquiète. La normalisation par ce projet de loi des pouvoirs d'urgence menace gravement l'intégrité de la protection des droits en France, selon le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Et pourtant, les Français, eux, sont prêts à rendre leur liberté pour vivre en sécurité. Baromètre Odoxa, 57% des Français se déclarent favorables au projet de loi antiterroriste et qui fait devenir donc ordinaire les mesures extraordinaires de l'état d'urgence. 62% des sondés estiment que le texte aura tendance, en effet, à détériorer leur liberté, mais 85% jugent qu'il améliorera leur sécurité. Notez qu'on a aussi eu une première cette semaine en la matière en France, qui fera sans doute jurisprudence. Une mère a été condamnée à 2 ans de prison pour financement du terrorisme. Son fils était parti faire le djihad en Syrie et elle avait aidé financièrement son fils parti là-bas. La France qui se défait, ou plutôt l'État qui nous dépouille de nos bijoux de famille. Le TGV passe le Rhin et les chantiers navals de Saint-Nazaire passent les Alpes. Voilà qu'on vend nos fleurons industriels. Le TGV est passé sous pavillon allemand. Alstom et Siemens ont annoncé leur mariage pour constituer le numéro 2 mondial des matériels roulants et des domaines de signalisation, domaine très rentable. Alors on a sauvé les apparences, le groupe allemand détiendra effectivement la majorité du capital, mais il faudra un vote des 2/3 du conseil pour certaines décisions stratégiques. Le siège sera en France, la cotation sera en France, le dirigeant sera français. Les apparences sont sauves. Même chose pour le chantier naval de l'Atlantique, STX. C'est l'italien Fincantieri qui obtient la majorité. 50%, plus 1% prêté par l'État avec un droit de retour pendant 12 ans si l'italien ne respecte pas ses engagements. Et c'est sans rappeler la longue liste des industries déjà passées sous pavillon étranger. Alstom Energy vendu à l'américain General Electric, Alcatel-Lucent vendu à Nokia, Peugeot Citroën vendu à Dongfeng, chinois. La famille Peugeot n'est plus majoritaire. Mais cessez donc de manger de la viande, puisqu'on vous le dit, pauvre bête, dans la nuit de mardi à mercredi, les amis des animaux qui n'en mangent pas, les véganes, ont organisé une nuit debout devant un abattoir dans chaque département français. Derrière cette action médiatique, l'association Vegan 269 Life, qui milite pour arrêter l'élevage des animaux, car il faut arrêter de manger, d'exploiter les animaux. Notez que l'automobiliste, lui, est toujours vache à lait. Et là, pas d'association vegan pour le défendre. Le diesel coûtera plus cher dès l'année prochaine, 7,6 centimes le litre. Le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, a confirmé cette semaine une hausse de 10% des taxes sur le diesel l'année prochaine. À propos de carburant et de circulation, notez qu'on a ce risque de blocage total des routes de France avec la colère des routiers, mais pas de panique, pour l'instant rien n'est fait, pas de blocage de circulation, pas de dépôt de carburant bloqué tant que la CFDT ne passe pas à l'action, puisque c'est le syndicat majoritaire des chauffeurs routiers et seulement lui peut envisager de bloquer le pays. D'ailleurs, la concertation va reprendre avec le gouvernement sur le sujet. Voilà pour cette rétrospective, merci de nous avoir choisi, passez un excellent week-end avec nous.
La météo de votre région sur RVE.
La météo pour votre dimanche, eh ben c'est une journée sous la pluie qui s'annonce avec des températures en baisse jusqu'à 15 degrés pour la maximale aujourd'hui. Donc c'est des températures en baisse. Tout de suite, voici votre émission Tribune Foot. C'est sur RVE 103.7. Bonne émission à vous et très bon dimanche.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Ça, c'était l'ancien générique. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour effectivement la rentrée de Tribune Foot après des émissions. Donc, Tribune Sport très, très dense et très riche de ces premières semaines. On va donc retrouver toute l'équipe qui était avec nous une grosse partie la saison dernière. On va commencer avec celle qui a beaucoup œuvré en coulisses pour les arrivées de Neymar et de Mbappé. C'est Juliette Rouvel. Ça va, Juliette?
Oui, bonjour Philippe. Bonjour tout le monde. Oui, ça va.
Ça va, très bien. On se regarde au Parc des Princes. Hein,
très
Neymar.
Bien.
Bravo pour Neymar et Mbappé.
Une réussite là dans l'achat et dans le mercato. Très bien.
Très bien. Il a passé aussi une belle semaine en tant que supporter du PSG, c'est Edouard. Salut Edouard.
Oui, ça va. Oui, oui.
Pleine saison, Paris va enfin le faire, la Ligue des Champions. Oui ou non?
Je ne sais pas.
Très bien. Ouais, bon, on verra ça.
Il y en a qui
allez,
sont pas
on
mal.
On va saluer
aussi
notre ami Ch'ti Francisco. Je t'avais déjà effectué la rentrée avec nous donc dans l'émission de 2h du 10 septembre dernier. Ça va, Francis? On va parler foot. Hein.
Oui,
tant
bonjour.
Pis, à Valenciennes, on a déjà changé d'entraîneur. Hein.
On a changé d'entraîneur, mais on a gagné vendredi soir.
Et puis, on parlera aussi de course hippique, hein, parce que c'est les courses aujourd'hui à l'hippodrome de Rambouillet. C'est la dernière.
C'est la clôture à Rambouillet, puis c'est le festival à Chantilly avec l'Arc de Triomphe.
Oui, voilà, on en parlera. Ainsi que pour notre ami José. Ça va, José?
Oui, bonjour à tous. Bonjour, Philippe. Ça va très bien. On parlait du PSG. Bon, moi, je pense qu'ils ont trouvé le Barça avec le trio d'attaque. Là, PSG aussi a son trio d'attaque avec la MNC, comme on dit.
Quelle semaine! Il est le seul Marseillais autour de cette table. C'est Pierre. Ça va, Pierre?
Salut, Philippe. Bonjour à tous.
Mitigé, le début de l'OM. Hein. les années se suivent et se ressemblent. Pour
ouais, c'est
Marseille.
Un peu compliqué cette année encore.
Ouais. Voilà, bien. Arnaud est à mes côtés. Ça va, Arnaud? Content de te retrouver.
Bah,
on a des beaux matchs au PSG. Hein.
Bah,
on se régale.
On a passé un bon mercato. Il n'y a pas qu'au PSG que ça joue bien cette année.
Oui, c'est vrai. On a un beau championnat. On a des entraîneurs de renom, des joueurs de renom. Donc, naturellement, on parlera du championnat de France. On en est à la 8e journée. On peut déjà tirer des premiers enseignements. On reviendra sur cette semaine mitigée pour nos clubs français en Coupe d'Europe, du bon et du moins bon. Et puis on parlera aussi d'équipe de France, hein, puisqu'on a un match important qui arrive le week-end prochain. On va commencer donc par les chevaux, hein, parce que c'est l'hippodrome de Rambouillet aujourd'hui, c'est la dernière réunion de la saison. Et puis il y a le championnat du monde des galopeurs, le prix de l'Arc de Triomphe. Alors on va voir deux pronos pour le prix d'un aujourd'hui. Hein. Alors on va commencer avec qui? Avec Francis ou José? Allez Francis, celui qui avait pris le relais de José ces dernières semaines. Francis donc, 9e et dernière réunion de la saison à l'hippodrome de Rambouillet. Il y a une petite variante, c'est qu'il ne va pas faire très beau à l'hippodrome dimanche, alors qu'il a fait pratiquement beau lors de toutes les réunions.
Oui, l'affluence était au rendez-vous avec le beau temps qu'on a eu également. Mais bon, aujourd'hui c'est la dernière, c'est la réunion 7 du PMU, pour ceux que ça intéresse sur Internet. Donc il y aura 8 courses au programme. Alors la première, c'est une course de chevaux débutants, des femelles de 2 ans. Alors là, c'est un peu la bouteille à encre, hein, je dirais, avec 12 partants. Donc je vous propose le 12, le 10, l'As, le 7 et le 3.
Mmh. Notez bien, hein. Les auditeurs, notez.
La seconde, une course destinée aux 4 ans avec 15 partants et 6 chevaux à 25 mètres. Donc le 15, le 9, le 12, le 13 et le 7. La troisième, qui est l'épreuve des doublés, qui est la deuxième partie de l'épreuve, également sur 2800 mètres, avec 5 chevaux à 25 mètres. Le 5, le 7, le 11, le 2 et le 13. La quatrième, qui est une course au trot monté, chose qu'on voit pas beaucoup à Rambouillet, mais qui est toujours assez spectaculaire. Bon, c'est un peu, parfois, n'importe quoi, mais enfin, moi. Je vous propose le 11, le 17, le 6, le 10 et le 2. Dans la cinquième, sur une course de 2800 mètres, qui est la plus grosse épreuve de la Réunion, avec une allocation de 22 000 euros.
En général, les 2800 mètres, hein, c'est les plus grosses
Et en plus, il y a 3 poteaux de départ. Il y a 2800, 2825 et 2850 mètres. Il faut dire que les gains des chevaux sont très larges. Voilà, donc je vous propose le 8, le 15, le 11, le 10 et le 7. Sixième sur 2800 mètres, le prix du conseil départemental. Il y a également 3 poteaux de départ avec 18 000 euros d'allocation. Le 13, le 9, le 14, le 12 et le 11. Dans la septième, une épreuve pour 3 ans, donc des jeunes chevaux. Le 11, l'As, le 4, le 8 et le 5. Et dans la huitième, qui comme d'habitude est une course d'amateurs à Rambouillet sur 2800 mètres avec 16 partants. Je vous propose le 12, le 8, le 11, le 13 et le 3. Voilà.
Très bien, donc je l'ai dit, 2 pronos pour le prix d'un. José, il y a à peu près les mêmes chevaux qui ressortent.
Oui, sauf que moi je vais vous parler du prix de l'Arc de Triomphe.
Oui, mais ça on va parler après, on va d'abord faire les pronos qu'on procède par ordre.
Les pronos,
on va d'abord faire les pronos sur Rambouillet et après on viendra au championnat du monde des galopeurs.
Voilà. On n'a pas fait exprès, mais on a à quelque chose près dans les 8 courses, on a pratiquement des chevaux en commun. Donc moi je vous propose dans la première le 12, le 10, le 6 et le 2. Donc Francis a déjà commenté les distances, tout ça. On va pas revenir, on va juste donner les numéros par course. Dans la deuxième, donc le 15, le 9, le 2 et le 6. Mmh. Dans la troisième, le 11, le 7, le 4 et le 9. Dans la quatrième, le 13, le 6, le 16 et le 12. Ensuite, dans la cinquième, le prix Peugeot Nova Automobile, donc le 12, le 3, le 10 et le 4. Dans la cinquième, dans la sixième, pardon, c'est le prix du conseil départemental des Yvelines, donc ça sera le 13, le 10, le 9 et le 4. Et dans la septième, le 12, le 6, le 9 et le 5. Et enfin, dans la dernière, une course pour amateurs, donc le 6, le 12, le 16 et le 8. Et je vous souhaite de gagner.
Voilà. On voit que vous êtes à peu près
à quelque chose près.
Vous sortez à peu près les mêmes choses.
Disons que c'est quand même difficile à rembouiller parce que pour la plupart, il y a des chevaux amateurs, mais il y a quand même des bons chevaux et des professionnels qui viennent. Il y a notamment Pierre Vercruz, Franck Nivard. C'est quand même des professionnels de Vincennes. Et le temps n'est pas au beau fixe, mais espérons quand même qu'il y ait beaucoup de monde parce que c'est toujours un beau spectacle de voir les courses de chevaux à rembouiller.
C'est vrai. Et puis on a beaucoup parlé avec José et puis Francis cette saison. C'est vrai que le bilan est positif, il a fait très beau, hein, il y a eu beaucoup de belles affluences. Et puis il y a eu un événement, ça a été la sortie du timbre à l'effigie de l'hippodrome. On y était fin juin, on en a beaucoup parlé. C'est une reconnaissance pour l'hippodrome. Hein.
Oui, c'est une reconnaissance, d'autant plus que, comme le disait José, il y a pas mal de grands professionnels parisiens qui viennent à Rambouillet débuter leurs chevaux, ou même remettre d'autres chevaux sur le circuit. Donc, ce qui est dommage, c'est le temps d'aujourd'hui. Mais enfin, bon, à l'hippodrome, on est à l'abri tout de même. Donc, n'hésitez pas à venir aux courses. Vous ne serez pas mouillé même s'il pleut.
En tout cas, il y a beaucoup de choses aujourd'hui aussi dans la région en parallèle. Mais en tout cas, c'est un très 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 bon bilan pour la saison des courses de Rambouillet. Alors messieurs, on y arrive maintenant, José, le championnat des galopeurs à Chantilly, le prix d'Arc de Triomphe.
Le championnat du monde des galopeurs à Chantilly cette année, bien sûr. D'habitude, ça se passe à Longchamp. Ouais. Mais comme l'hippodrome est en travaux, donc ça a été exporté sur Chantilly. Donc c'est, je vous le disais, c'est la plus grande course du monde, y a une dotation de 5 millions d'euros quand même en tout pour les. Et pour le premier, il y aura exactement 2 857 euros de remis à l'écurie victorieuse qui se. Donc 77,5% pour les propriétaires, 14% pour l'entraîneur, donc 4% directement attribué au personnel d'écurie et 8,5% de cette somme-là. Pour le jockey.
Ah, c'est intéressant quand même.
Ça peut sembler beaucoup, mais un cheval de course quand même, surtout pour ce prix-là, c'est entre 70 et 100 euros par jour de
coûts d'entretien.
Voilà, de coûts d'entretien. Donc ça peut aller très vite. Donc c'est pratiquement réservé aux gros propriétaires et aux gros entraîneurs. Les amateurs n'ont pas accès à cette course-là. D'accord. Donc on va quand même essayer de vous proposer un pronostic. Donc le grand favori, ça sera le numéro 17 qui sera monté par le jockey italien Léon Franco Dettori. Qui est aînable, qui reste sur 5 victoires d'affilée et qui a quand même 1 600 000 euros de gains. Bon, ensuite on vous proposera le 8, le 4 Ulysse, le 18 qui sera monté par Ryan Moore, un jockey anglais ou irlandais
bien connu,
qui est très connu, qui a déjà participé à plusieurs arcs de triomphe. Après on aura donc le 16, un cheval entraîné par André Fabre. Qui normalement, s'il l'engage, sur le papier, il a pratiquement pas de chance par rapport aux chevaux que je viens de citer. Mais si Monsieur Fabre l'engage, c'est que dans cette course-là, c'est qu'il sent qu'il a possibilité de finir dans la bonne combinaison. Ensuite, donc, nous avons l'As Zarak qui sera monté par Soumillon, un cheval entraîné par Monsieur Alain Royer-Dupré, qui a déjà à son actif plusieurs arcs de triomphe. Et ensuite, le 6, disons que c'est un cheval de complément. Et je le vois bien dans les 6-7 premiers, dans les 5-6 premiers. Nous avons le cheval Nippon, c'est mon regret un petit peu, c'est le 9, Tatonio Diamond. Mais les Japonais, à chaque fois, Ils ont envie de gagner l'arc, mais ils ont quand même, ils ont du mal. Et bon, je sais pas si ça sera pour cette année, mais en tout cas, le grand favori, ça sera Enable, monté par Léon Franco des Tories. Et je pense qu'il a une très bonne chance de, disons qu'il est au-dessus du lot, mais dans cette catégorie-là, tous les chevaux se valent. Après, c'est un petit détail de course qui peut faire la différence. Mais bon, je vais répéter mon prono. Oui. Le 17, le 8, le 4, le 18, le 16, le 1 et le 6. Et voilà pour cette grande course. Si Francis a quelque chose à rajouter.
Oui. Alors, avant, pour faire le lien entre le foot et puis les chevaux, il n'y a pas le cheval d'Antoine Griezmann, non?
Non, il court pas dans cette course-là, non.
Arnaud qui a de bonnes infos. Arnaud, Antoine Griezmann a acheté donc un galopeur.
Oui.
Ah, il a acheté un galopeur. Et apparemment, ouais. Il sera aujourd'hui à Chantilly avec un cheval qui.
Je ne le connais pas, mais je vois que voilà. Sur le.
Il n'est pas sur la liste des propriétaires sur Pinter.
Non, il n'est pas sur la liste des propriétaires, donc okay. On en parlera un peu plus tard peut-être si on arrive à le retrouver.
Enfin, il y a beaucoup d'exemples de joueurs de foot.
Luis Fernandez notamment,
ou Vincent Guérin qui sont à la fois des amoureux des chevaux et des amoureux donc.
Charbonnier les a même entraînés.
Oui,
c'est vrai.
Alors Francis, les pronos pour maintenant le prix d'Arc de Triomphe.
Moi je serais pas original, je dirais aussi le 17 pour gagner et ensuite l'As, le 2, le 15, le 9, le cheval japonais parce qu'il aura l'avantage d'être monté par un jockey français et le 16.
Oui.
D'accord.
On a 3 ou 4 chevaux en commun, oui. Bon, donc de toute façon, j'espère qu'on va réussir à faire gagner les auditeurs et nous-mêmes, parce que moi je vais quand même faire une petite combinaison, mais j'espère que c'est les bons tuyaux.
Alors, pour ceux qui se rendront à l'hippodrome de Rambouillet, il y a toujours une petite télé en arrière-plan.
Oui,
en
course,
plan, oui. La course à la télé, c'est vers 16h15. Hein.
C'est ça.
On connaît la chaîne qui. LCI, je crois.
Il y a aussi Equidia.
Je crois qu'il y a LCI.
Elle est retransmise par TF1. La course en direct, ça fait 2-3 ans qu'ils la transmettent, celle-ci sera retransmise en direct sur TF1.
Voilà, très bien, merci messieurs. On va donc maintenant parler de ballon rond, le lien entre les chevaux et le ballon rond, avec cette 8e journée du championnat. Quelle semaine! Paris Saint-Germain qui écrase le Bayern 3-0, et hier PSG qui a fait une véritable démonstration devant Bordeaux 6-2. Juliette, on a rarement connu ça au Parc des Princes quand même.
Oh, on a eu de beaux matchs quand même.
Enfin, quand même.
Bon, là maintenant c'est mieux, c'est vrai, c'est quelque chose de fantastique. Mais quelque part, attendons. Parce que pour moi, je souhaite qu'il n'y ait pas de blessés. Je souhaite que Neymar n'ait pas tantôt la cheville ou le genou pris entre deux adversaires. Alors ça,
il y a un bon PSG maintenant.
Mais il y a Mbappé. On les voit jouer, ils sont un petit peu harcelés par les adversaires sur la cheville.
C'est le but du jeu.
Casser la cheville et de faire mal au genou.
C'est parfois. On va commencer la saison comme ça. La saison dernière, championnat d'Espagne, même depuis 5 ans.
Mais quel que soit
Cristiano
le championnat,
Ronaldo, Neymar, Messi, Griezmann,
ça m'est égal pour l'Espagne et le reste. Mais moi, je dis qu'en France, il faudrait que les joueurs apprennent à ne pas se taper dessus comme ça.
On est à peu près sur la même position, mais c'est pas parce que le PSG vient d'acheter une terre à 400 millions d'euros que les gens vont les laisser.
Mais je l'ai toujours dit. J'ai toujours dit qu'il faut arrêter de taper comme ça, de faire des tacles. Alors, regardez ça.
C'est le football d'aujourd'hui.
Qui là, il a pour 3 mois. Mais moi, je suis pour que celui qui a frappé et aussi 3 mois d'arrêt parce qu'on ne peut pas comme ça, mais quelquefois mais quelque part il y a des joueurs qui sont quand même remontés pour pouvoir taper sur un joueur pour l'empêcher de...
Je pense quand même que dans l'ensemble le championnat de France reste correct. Bon, il y a quelques incidents, c'est sûr, comme dans tous les championnats.
Mais il y a quand même des blessés graves.
Je pense pas que les autres équipes viennent exprès, pourtant je suis parisien, je ne crois pas que les autres équipes viennent pour casser les joueurs.
Mais vous n'êtes pas dans la tête des joueurs ni dans la tête
peut-être
gens.
Que...
Bon, José, on se régale en tout cas.
Ah oui, au niveau du jeu, c'est sûr que...
Les supporters au Parc des Princes.
Au niveau du jeu, c'est sûr que...
Une semaine, on bat le Bayern de Munich 3-0 et on bat Bordeaux 6-2, alors qu'on dit que Bordeaux allait titiller et allait bouger le Paris Saint-Germain. On se régale quand même.
On le verra peut-être par la suite, mais je pense quand même qu'on a franchi un palier cette année et qu'on est un petit peu au-dessus du lot. Je pense que déjà au niveau du championnat, à part Monaco qui va peut-être essayer d'accrocher
Monaco
un petit
qui
peu.
A 3 points, Montpellier, mine de rien, 0-0 devant le PSG à 1 à Monaco. Ils ont joué des troubles fêtes.
Alors,
On se rappelle que les autres années, l'année dernière, on disait que Nice allait pas tenir et puis ils ont tenu, ils sont restés troisième. Mais dans les débuts de saison, nous avons toujours un club de milieu ou de bas de tableau qui se hisse dans les 3-4 premiers, puis après,
la vérité,
à la fin, arrête dans
année,
les 6-7 premiers.
Cette année, il n'y en a pas qu'une, on se faisait la réflexion avec Pierre juste avant. Nantes joue très bien au foot, Guingamp joue bien, Bordeaux, Saint-Etienne, Angers, il y a énormément d'équipes qui jouent bien au foot.
La seule équipe qui est pas à sa place, c'est Lille.
Oui, c'est vrai que pour l'instant les nordistes, voilà, les nordistes ils ont du mal, mais
les ch'tis ont un peu mal en ce début de
Bielsa,
ils ont tous mal.
Bielsa, faut qu'il prenne ses marques et je pense que là il a eu trois défaites
de management de suite.
Le problème c'est qu'il a recruté pas mal de Sud-Américains. Il faut que les gens s'adaptent.
C'est ça, c'est surtout ça aussi.
Et puis ils sont très jeunes en plus.
Il leur faut un temps d'adaptation, mais je pense que par la suite ils peuvent finir dans les 7-8 premiers.
Il y a Caen aussi qui est équipe surprise.
Il joue bien, qui est quatrième.
Mais bon, au niveau du football, Paris Saint-Germain, on voit bien qu'il est au-dessus du lot, avec le trio d'attaque Cavani, Mbappé et Neymar. Il ne devrait pas y avoir de problème.
Bon, Juliette, comment est l'ambiance au Parc des Princes?
Mais écoutez, je ne suis pas allée depuis. Je ne suis pas allée depuis. Ouais. Alors, ce qui fait que, je prends mon plaisir.
L'ambiance est incroyable. L'avantage d'avoir une équipe comme ça, c'est qu'aussi, déjà, le parc n'a pas été. Une seule fois depuis le début de saison, pas plein. C'est plein à craquer à tous les matchs. L'ambiance est de mieux en mieux. Les ultras se tiennent bien. En plus, on a vu cette discussion il y a 8 mois, donc ça se tient très bien. Maintenant, on espère que ça continue, qu'il n'y ait pas de problème. Et voilà, mais en attendant, sur le terrain, ça joue très bien. Dans les tribunes, ça se passe bien. Et Paris peut aller loin en Coupe d'Europe aussi.
Est-ce que le prix des places a augmenté?
Ça a explosé.
Bah oui,
ça a explosé aujourd'hui. Un PSG Bordeaux, 50 euros minimum, alors que ça en coûtait 25 ou 30 avant.
C'est donc, le club, c'est ça, le club en Ligue des Champions.
Et quand je dis 50 euros, c'est derrière les buts en bas.
C'est le club en Ligue des Champions avec les places les plus chères de l'Europe.
Et les supporters du Bayern ont mis des banderoles cette semaine et c'est tout à fait légitime parce que des clubs comme ça.
Je crois tous les clubs. Dès que Paris se déplace pour aller jouer, les prix augmentent. Il n'y a pas qu'à Paris que ça augmente.
C'est vrai que ça remplit les stades aussi.
Ça remplit les stades et ça permet de faire une rentrée d'argent. Alors tous les clubs augmentent leur prix aussi et doublent même leur prix quand Paris se déplace.
Avec les ultras qui ont eu des abonnements pour eux cette saison, les prix ont baissé pour les abonnements. Avant même la signature de Neymar et Mbappé, donc suppose que dans un an ça risque de re-exploser vers la hausse. Les prix des abonnements qui ont baissé à certains endroits. Pour le spectacle proposé qui est même pas le même que celui de l'année dernière, c'est plutôt bon au niveau des prix.
En tout cas, quand on voit les stats du championnat, depuis le début du championnat, excepté peut-être la sixième journée où on a dû marquer que 14 buts. On a des moyennes très élevées au niveau des buts en championnat. C'est vrai qu'on a quelques matchs avec des scores comme hier 6-2, c'est sûr que ça augmente la moyenne de l'affluence. Et puis c'est vrai, comme on le disait, on a Balotelli à Nice, on a Schneider même sur le déclin, on a des entraîneurs aussi de renom. Ça a porté un surplus.
On peut parler du transfert de Neymar à 222 millions d'euros, mais faut voir derrière qu'il y a toute une économie.
Les retombées vont être faites rapidement.
Voilà, retour sur investissement, ils l'auront. Et ça permet aussi au championnat étranger de voir que le championnat de France est attractif.
Et quand on regarde le coefficient UEFA de cette semaine, la France peut finir devant l'Allemagne d'ici la fin de saison.
Et le fait qu'on ait fait cette semaine, il y a une victoire, une défaite en Ligue des Champions.
Je suis d'accord, mais l'Allemagne,
ça booste un peu le championnat de France. Le fait d'avoir des grands joueurs de cette stature, même Mbappé, 18 ans et demi, attention, le gars, il fait ce qu'il veut avec le ballon. C'est un futur crack, ça. Comme on dirait des chevaux, c'est un futur crack. Il a que 18 ans et demi.
Mais comme on l'a dit, donc Bordeaux est là en embuscade, Saint-Etienne aussi, Nantes aussi.
Nantes surtout.
Nice est en milieu de tableau. Et puis Marseille, alors? Que se passe-t-il?
Et puis Marseille.
On ne change rien. Marseille qui a des ambitions, ça avait été clairement annoncé. Mmh. Et puis finalement, on a le sentiment que la saison se.
C'est mitigé en fait. Si vous voulez, on est tous déçus parce qu'il y a eu des scores quand on prend 6-1 à Monaco et 3-1 chez nous contre le Rennes.
Oui, il y a eu la colère.
Et avec la manière qui est vraiment désastreuse, on est vraiment très déçus parce qu'on nous a fait miroiter un projet énorme. Et des joueurs exceptionnels et on n'a rien vu venir. Donc quand on monte en supporter, c'est pas bon. Mais à côté de ça, aujourd'hui, si on gagne ce soir contre Nice, on est troisième.
C'est toujours des matchs chauds. Hein. Nice-Marseille, c'est toujours des matchs ouf.
Donc en fait, il y a eu une mini-crise qui est un peu atténuée avec certains scores. Mais on est toujours dans la course, on est devant Lyon. On est devant Saint-Etienne encore.
Je suis d'accord, mais un club comme Marseille prend de 6 buts à Monaco. un club de l'envergure de Marseille qui a une grande histoire derrière, ça fait mal.
Oui, bien sûr que ça fait mal. Ah oui, bon, oui, bon, c'était compliqué. Bon, c'était voilà. compliqué. Et puis même prendre 3-1 chez soi contre Rennes, oui, qui était au fond du seau à ce moment-là. Et puis la façon de jouer, quoi. Enfin, je veux dire, on comprend pas certains changements sur Rudy Garcia, la tactique. Donc là, il a fait certains repositionnements qui sont mieux pour l'équipe. Mais
et
c'est
Patrice
vrai que...
Evra, alors.
Bah Patrice Evra, enfin je sais pas, tout le monde le voit quoi, qu'il est plus apte à jouer, il est à la rue, enfin ouais. À ma vie il le remplace, il est au-dessus. Oui. Mais c'est un problème parce qu'à côté de ça, ça doit être un leader dans le vestiaire
c'est ça.
Rudy Garcia il doit essayer de gérer au mieux, mais c'est compliqué.
Francis, moi je voudrais savoir les déboires de Lens, parce qu'en tant que ch'ti, ça va vous navrer, hein. Bah, on s'inquiète sérieusement pour cette équipe qui a quand même marqué l'histoire du foot français.
Oui, mais le problème, ça a été le recrutement. Le recrutement n'a pas été bon, comme ça a été le cas aussi à Valenciennes, je pense. Mais enfin bon.
Valenciennes, ça va un peu mieux.
Ouais, hier soir, je crois, on a enregistré la démission de Gervais Martel.
Oui. Enfin.
Non,
enfin,
il reste, le retrait. Il tirera toujours les ficelles.
Président du conseil d'administration.
Ils ont recruté Eric Croix, qui est le directeur sportif.
Très bien. Très bon entraîneur.
Mais moi, je pense que Lens, c'est très mal parti, mais ils vont se ressaisir.
C'est pas sûr. Moi, je trouve que l'effectif est pas fabuleux.
Mais ils vont pas descendre en national.
J'espère. Non, pour le foot français, il faudrait pas que ça descende.
Le fossé pour Lens, c'est première journée de championnat, une banderole dans Bollard. Lens, la Ligue 1 ou rien, se retrouver après une banderole comme ça à cette place-là, ça fait mal pour ses voisins.
C'est vrai que ça fait quand même quelques années qu'ils sont en Ligue 2 et que les supporters doivent en avoir ras-le-bol.
Il y a des choses inéluctables. Hein. Il y a ces clubs là de province qui sont pas des grosses villes. Moi, je suis désolé de le dire, mais je pense qu'elles sont appelées à revoir un peu à la baisse leurs ambitions. Hein, parce qu'on regarde en Ligue 1, on n'a que les grosses écuries qui mènent la course.
Marseille, Nantes, ceux qui sont là.
Voilà, c'est ça. Et ceux qui remontent jouent le yo-yo, quoi. Ça descend, ça monte. Donc, malheureusement pour Lens, je vois pas, à moins qu'ils recrutent des gens exceptionnels, je vois pas l'avenir très, très rose.
Allez, on rentre dans les vestiaires, on marque une page de pub et un peu de musique, et ensuite on parle des Coupes d'Europe. On y va.
Bienvenue au San Lazzaro. Venez déguster ses pizzas et le meilleur de la cuisine italienne dans un cadre convivial et accueillant, agrémenté d'un jardin d'hiver ou à emporter sur commande. Restaurant San Lazzaro, 103 rue Georges Lenôtre à Rambouillet. Téléphone 01 30 41 05 77. Ouvert tous les jours sauf dimanche de midi à 14h15 et de 19h à 22h15.
Vous voulez devenir propriétaire dans un cadre rural avec une qualité de vie exceptionnelle, avec des équipements adaptés, une école, niveau maternel et primaire, des équipements sportifs, une médiathèque, une salle polyvalente et des associations dynamiques? Pont-Évrard, à 3 km de Saint-Arnaud en Yvelines, est un village dynamique, résidentiel, adapté pour accueillir votre famille. Il est desservi par des lignes de bus régulières et situé à proximité d'une gare routière vers RER et TGV et de l'autoroute A10 à 11. Alors découvrez le lotissement Lorée du Bois en lisière de forêt à Pont-Évrard. Et il est éligible au prêt à taux zéro. Contactez la mairie, 5 place de la mairie, au 01 30 41 22 13. 01 30 41 22 13. Changez de vie et devenez Ivry Pontin.
Attention, n'hésitez plus, les derniers lots sont à vendre à Pont-Évrard. Alors appelez rapidement le 01 30 41 22 13, 01 30 41 22 13 et devenez Ivry Pontin.
Du 18 septembre au 7 octobre 2017, l'Abbatienne de Menuiserie, votre spécialiste en menuiserie reconnu au Grenelle de l'environnement, vous offre sur toutes les portes et fenêtres Jeannot le pack de votre choix. Le pack sécurité pour vous protéger contre les cambriolages. Ou le pack déco pour des fenêtres à votre image. Venez vite en magasin faire votre choix. Les devis sont toujours gratuits. Abbatienne de Menuiserie, showroom au 27 rue de Chartres, opéré en Yvelines.
chanter sa prose.
Quelque chose de prévu, Marc ?
Le restaurant Amaris à Rambouillet vous accueille dans un cadre agréable et chaleureux et vous propose de découvrir.
C'était pour la pub. Donc, on va revenir sur les Coupes d'Europe, messieurs. Hein, donc, Paris Saint-Germain qui bat le Celtic Glasgow 5-0. Paris Saint-Germain qui bat le Bayern 3-0. Bon, Paris qui s'envole les débats. C'est vrai que Paris a fait le match parfait mercredi. Hein. C'est difficile de dire autrement.
Oui, comme je le disais tout à l'heure, au début de l'émission, ils ont un trio d'attaque
oui,
d'enfer. Voilà, Cavani, Neymar, Mbappé. Mbappé, je pense que malgré sa jeunesse, comme je le disais, c'est un futur crack. Il est déjà, pour son âge, au-dessus du lot. Et je crois qu'il s'entend très bien avec Neymar. Et je pense que ça peut faire du dégât dans les défenses adverses. Oui, on va voir au match retour à Munich. Mais je pense que... Je pense qu'on n'a pas grand-chose à craindre. J'espère qu'on ne va pas faire la même chose que l'année dernière. Mais là, je suis confiant. Je suis confiant et je pense qu'on peut même gagner là-bas à Munich.
Et tactiquement, ce PSG a deux visages. Il y a un visage Ligue 1 où il va faire le jeu, il va dominer. Et il y a un visage Ligue des Champions où il va subir, il va jouer en bloc. Et derrière, quand ça part en contre avec ces gens-là,
tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça en voyant un match.
Est-ce que c'était volontaire, d'après vous, le fait que Paris subisse comme ça ?
Moi, je pense que justement, ils ont marqué match, ils ont marqué très très tôt dans le match,
oui,
et qu'après, ils ont eu un peu tendance à se replier peut-être, et que du coup, le Bayern, bah, c'est aussi un
enfin,
jeu passé,
c'est un fait de jeu,
c'est aussi un jeu basé sur la possession, le jeu du Bayern. Donc, du coup, peut-être que ça, c'était pas prévu, mais ça s'est passé comme
ça. En tout cas,
après,
Unai
Emery, on en a parlé.
Un Bayern peu dangereux quand même. On peut pas dire que
c'est vrai qu'ils ont beaucoup de corners, mais ils sont pas dangereux.
Un Bayern peu dangereux. Mais il y a un joueur dont on parle pas cette saison. C'est Alphonse Areola. Il s'est fait démonter depuis un an. Il se fait démonter même
tout dans son match.
Mais cette année, Areola dans les c'est très très solide.
Tu dis ça parce qu'il il a fait un beau match contre le Bayern.
Bah, il a fait un beau match contre le Bayern. Il a fait un beau match hier. Il a fait un beau match il y a deux matchs. Il y a trois matchs.
Il faut attendre aussi qu'il confirme encore.
Mais oui, mais il faut lui laisser le temps.
Il est jeune aussi.
Il faut lui laisser le temps. On lui a laissé le temps aussi l'année dernière. Il a fait quand même quelques bévues.
Ouais, enfin Pierre,
alors qui fait pas de
bévues au PSG, il y a des problèmes de gardien. On a Areola, un potentiel que Trapp n'a pas forcément. On a l'avantage qu'il soit français, que ça soit un jeune parisien. Il a énormément de talent, il y a un potentiel.
Mais oui,
c'est sûr, mais il faut attendre un peu.
Vous aviez Barthez qui était un ancien, il en a pris aussi des tonnes chez nous. Ce sont des choses qui arrivent. Les gardiens se forment et puis petit à petit, il va monter Areola.
Est-ce qu'Ancelotti a pas été lâché par ses joueurs? Parce que bon, on sait que après ce match, donc
c'est-à-dire
qu'il le remplace.
Ouais, il avait mis quelques crades sur le banc, donc on peut-être le supposer. Mais c'est
Robin n'a pas fait des déclarations très
non mais
très
Robin, sympa pour lui. Robin n'a pas un match dans les jambes, c'est clair. Donc on l'a vu contre l'équipe de France. Hein. Il est rentré, il a joué quoi une demi-heure. Bah, bon,
Robin il est sur la fin.
Il a pas fait d'étincelles. Bon, ce qui m'a étonné, c'est que Ribéry soit pas rentré, à moins qu'il ait été blessé. Bon, enfin,
non, il était pas blessé.
Il était surtout embrouillé avec
un qu'est-ce que vous en savez?
Bah si, on sait, il a acheté son maillot le week-end d'avant.
Il a jeté son maillot, bon, c'est le premier qui a jeté son maillot.
La composition de l'équipe du Bayern m'a surpris, mais enfin bon, moi.
Non, mais il manquait des joueurs.
Le résultat est là. Hein.
Il y avait des suspendus, des blessés, il n'y avait pas Neuer, il n'y avait pas Hummels, il n'y avait pas Boateng, il n'y avait pas toute la charnière centrale.
Mais c'est vrai que de marquer d'entrée, bon, ça aide.
Non, mais match parfait pour Paris, il y aura un match retour, quoi qu'il arrive, de toute façon.
Moi, j'attends de voir le match au Bayern au mois de mars.
Oui, d'accord, mais. C'est bien pour la première fois.
Parce qu'on avait dit la même chose l'année dernière contre Barcelone.
Oui, c'est un match retour
après c'est sûr que c'est dans la poule de Ligue des Champions
on verra si l'état d'esprit a changé
c'est toujours mieux de finir premier puisque même si on tombe sur un gros en 8ème ça peut arriver
Paris termine deuxième de sa poule
on reçoit deuxième match et c'est un avantage quand même important.
Bon, oui Edouard, et après on passera à Monaco.
Comment fait-il 17 corners Bayern
2000
et Paris?
Oui, bah c'est le football, manque d'efficacité.
Bah oui, ça arrive.
C'est le football.
Mais
c'est chose que le Bayern n'était pas son.
À chaque corner, ils se précipitaient pour jouer. Ils étaient aussi dans la précipitation, alors qu'elle peut pas aussi.
On n'a pas laissé la vie jouer.
Mais c'est vrai que.
Dominique,
c'est son balle, autant de corners, puis le Bayern est inefficace, c'est le foot. Hein.
Voilà. Non,
Philippe, Paris, on peut parler de Monaco pour parler mal du foot français ou...
Alors, 1-1 entre Monaco et Leipzig, et puis battu 3-0 par Porto, Monaco à domicile, ça rappelle un score de la finale de Ligue des Champions de 2004. Monaco, 4e. Ils vont aller jouer au Besiktas, qui est premier.
Ils vont prendre une
ça va être difficile. Hein,
ça va être difficile.
De renouveler la prestation de l'année dernière.
Mais bon, j'espère pour Monaco que c'est juste un incident. Mais bon, ils se retrouvent dernier du groupe.
Ils ont été très légers défensivement.
Et entre les deux entraîneurs portugais de Porto et de Monaco, je sais pas lequel qui est le plus fort, mais bon, je pense que pour Leonardo Jardim, je pense que c'est un petit incident qui, j'espère, se renouvellera. Mais faut noter aussi qu'ils ont perdu, leur perle Mbappé, ils ont perdu pas mal de joueurs. Et à chaque fois, bon, en championnat, ils arrivent à tenir le choc.
Ils se sont renouvelés.
C'est
mais
vrai.
Je me demande s'ils n'ont pas été aussi un peu perturbés par l'annonce du président de Monaco qui allait les lâcher. Alors, quelque part, ça peut jouer dans la tête de ces jeunes.
Juliette, il n'y a jamais eu d'histoire comme quoi il a lâché Monaco. Ce qui s'est passé,
justement,
c'est qu'il y a
pourquoi
eu des histoires de corruption avec un juge monégasque. Il va être condamné et il n'y a absolument rien à voir entre le niveau.
Pourquoi les journalistes s'amusent à dire des conneries? Pourquoi inventent-ils des choses pour casser un club? C'est ça le problème. Mais oui, ils informent de quoi? Ces jeunes-là, ils sont jeunes. Le moins de trucs que vous pouvez leur dire, ça les perturbe. Enfin, il faut arrêter de dire n'importe quoi aussi, vous autres journalistes.
Tu veux parler de quelque chose qui a perturbé Monaco, je pense. Paris claque à tout va, Monaco vend à tout va. C'est aussi simple que ça. Monaco a vendu pour je ne sais combien de millions d'euros, je suis sûr qu'il y en a au moins 300. Parce que quand tu vends Mendy 60, Bernardo Silva 70, Mbappé 180,
c'est ce que je disais tout à l'heure.
Quand tu liquides ton équipe déjà.
Oui, mais c'est la politique du club. C'est la politique du club depuis 2-3 ans.
Alors, ces gars-là, il n'y a pas d'ambition sportive.
Monaco, c'est prendre des joueurs très bon marché pour vendre.
Et on vend ses joueurs, quoi. C'est dommage.
C'est la politique du club. Ils ont repris des jeunes très bons, notamment le jeune Belge.
Peut-être
je pense que c'est juste un problème passager. Quand on voit le début de saison, il n'est pas mauvais. Ils sont en avance, au niveau du championnat. Mais ils sont en avance par rapport à l'année dernière. Ils ont deux points de plus.
Mais des joueurs comme Mendy, Bernardo Silva,
cette année, ils sont bons.
Avec quand même une certaine expérience au niveau européen. Alors que les jeunes qui sont arrivés n'ont peut-être pas encore la même expérience que les cadres qui sont partis.
Mais vous verrez que ça va être compliqué en Ligue des Champions parce que c'est vrai que Beşiktaş, en général, le championnat turc est devenu un peu meilleur cette année. La trêve internationale arrive au bon moment pour Jardim parce que c'est vrai que ça faisait deux mauvais résultats et que là il va mettre tout à plat et vous repartir et vous verrez que Monaco, ils ont de la ressource.
Voilà. Mais vous savez Monaco, ils vont passer.
Je pense qu'ils vont battre Leipzig chez eux.
Oui, ça c'est bon.
Je pense que
c'est à Monaco, Le prochain match contre Leipzig,
Monaco va battre Leipzig chez eux.
Ça va être quand même compliqué, hein, parce que
ça va être compliqué, ça va être serré, mais s'ils arrivent à faire un résultat Porto, pourquoi pas? Moi, je vous dis que Monaco, enfin, attention, c'est pas fini.
Toutes les équipes ont des accros. Hein. Quand vous regardez Benfica qui prend 5-0 en Suisse à Bâle.
C'est incroyable. C'est incroyable.
C'est à se poser des questions. Hein.
Bon, allez, on parle de l'Europa League. Lyon. 5-0. Là-bas. Les Lyonnais, donc, machine à domicile devant Bergame. Un partout. Bon match de foot et belle équipe de Bergame. Lyon qui avait déjà fait match nul contre Limassol, un partout. Ouais. Lyon, troisième. Il joue Everton.
Ça va être compliqué pour Lyon aussi, je pense. Mais c'est vrai que c'est pas percutant. Mais il y a trop d'absence, il y a trop de.
À l'image du but d'ailleurs.
Voilà, il manque la casette. Il n'y a plus la casette pour mettre au fond des filets.
Ils sont tombés dans un groupe difficile.
Et Bergame fait un bon match.
Ils sont tombés. L'Atalanta Bergame, ça fait quelques années qu'ils sont.
Mais c'est dommage parce que ça joue pas tout le monde. C'est une équipe qui est sympa à voir jouer Lyon quand même.
Mais Lyon, ils ont fait un recrutement aussi assez intéressant, mais ça faut que ça se mettre en place et ils ont toujours les problèmes récurrents défensifs en fait. C'est toujours la défense centrale, on pensait que Marcelo ça allait stabiliser un peu tout ça, mais c'est un peu compliqué en charnière centrale encore. Et puis comme tu dis Philippe, ils ont des absences, ils font 3-3 chez eux contre Dijon alors qu'ils doivent le gagner ce match là. C'est assez paradoxal parce qu'en fait on dit qu'il y a une crise à Marseille. Mais on est quand même devant Lyon cette année encore au championnat. Mais on n'en parle pas parce que Jean-Michel Aulas, il fait un peu le boulot de président. Non, mais c'est vrai, il protège ses joueurs. Genesio, personne n'en parle. Alors qu'il est un peu à la rue, peut-être.
Ça joue bien, mais ça manque d'efficacité devant le but.
Et puis des fois,
il manque le dernier geste.
Et puis contre Paris Saint-Germain, il y a eu Paris-Lyon. Je suis pas sûr que le 2-0 reflète le match aussi parce que Lyon, il méritait peut-être mieux.
C'est vrai que Lyon, contre le PSG, avait fait un super match aussi, oui.
Mais là, on l'a Vincent, là.
Mariano Diaz.
Oui, il n'est pas encore
bien informé. Il est peut-être plus beau qu'il est aussi.
Nabil Fekir, quel joueur en
Ah oui, ça par contre. Oui. Ouais, par contre, ouais.
Technique, joueur. Très technique.
Il n'est pas en équipe de France.
On va en parler tout à l'heure. C'est bizarre qu'il soit pas en équipe de France.
Mais oui, parce qu'il peut jouer, paraît-il, qu'il y a un poste maintenant. Il ne peut pas autant permuter. C'est l'explication de Didier Deschamps. Voilà. Ouais. On ne peut que remplacer Griezmann.
Didier Deschamps.
On en parlera
tout à l'heure.
Ça a été l'explication, ouais. Allez, Marseille. Alors, Olivier, donc
Pierre. Et puis Pierre, non, mais Olivier, on qu'on salue.
Et puis, Marseille, donc Kenya Spahn, 1-0. Et puis battu à Strasbourg, 1-0. Vous êtes troisième, alors
Troisième de la poule. C'est compliqué. Parce qu'en fait, on a un effectif assez léger. Il essaye de faire tourner en Europa League, malheureusement. Et quand on fait tourner, on s'expose.
Europa League, parce que battu à Strasbourg, 1-0. On a le sentiment que Garcia, il a un peu sacrifié l'équipe, quoi.
On joue tous les trois jours et il essaye de faire du turnover, mais on se rend compte que quand on essaye de faire un turnover, il faut une deuxième équipe potable et c'est pas le cas à Marseille. Quand on change les titulaires, ça passe pas, même à Salzbourg.
Ça c'est encore un des problèmes des clubs français en Coupe d'Europe, enfin plus Ligue Europa que Ligue des Champions.
Alors normalement,
l'Allemagne joue la Ligue Europa, l'Espagne, l'Angleterre, les autres championnats la jouent, mais en France, on la joue jamais.
Non, mais normalement, Marseille, normalement l'Europe, il y a quelque chose et on aime jouer l'Europe. Mais bon, il reste encore des matchs, on peut encore se qualifier.
Oui.
On peut aller faire des résultats aussi.
Je crois que c'est peut-être un accro. Le Portugal.
Mais Guimarães, c'est pas le top cette année-là.
Non, c'est pas la meilleure équipe portugaise, c'est sûr.
Très logiquement, sur le papier, Marseille, ça passe.
Mais normalement, ils doivent passer. Et s'ils passent pas, ça va faire jaser, en tout cas, c'est sûr.
En tout cas, une équipe qui joue à fond l'Europa League cette année, c'est Nice.
Contrairement à l'année dernière.
Varennes gagne 5-1, ils ont battu Rennes 3-0. Ils sont en tête et il y a une superbe affiche chez Nice, la zone Rome, lors des prochaines journées.
Ça va valoir le coup, oui.
Non, mais Nice avait fait un début de saison poussif.
Oui,
grâce à l'Europa League, ils sont un peu relancés parce qu'ils ont fait.
Ils ont été éliminés par Naples au tour préliminaire de Ligue des Champions.
C'était injouable.
Ce qui était logique.
Naples.
Je pense qu'ils sont plus à leur niveau en Europa League.
Naples, ils peuvent gagner la Serie A cette année. Donc.
Oui.
Non, mais c'est vrai que Nice, ils avaient un.
Ils peuvent aller très loin,
ils avaient un début de saison poussif et ils sont requinqués en Ligue Europa en gagnant à Zultevarghem. Donc. Attention, parce que Lucien Favre, c'est un entraîneur expérimenté qui a joué beaucoup de matchs européens, je crois. Donc, ils peuvent faire quelque chose.
Donc, des trois équipes, c'est Nice qui peut essayer d'aller peut-être plus loin, plus que Marseille, plus que Lyon.
Pour passer les poules.
En parlant de la forme du moment.
Je sors en Ligue Europa, c'est totalement aléatoire.
Bien sûr.
Au tour suivant,
sur le papier, les trois clubs français doivent passer les poules. C'est Lyon pour moi.
Après, on savait qu'au tirage au sort, que Lyon avait un groupe difficile.
Lyon a un club difficile, mais ils ont le niveau suffisant pour passer le premier tour. Il ne faut pas oublier qu'on a une finale de Ligue Europa à Lyon. Donc c'est quelque chose qui doit être aussi motivé un minimum.
Oui, oui. Bah après, il faut quand même gagner les matchs.
Oui.
Et ça, ils ont Balotelli, bon, on dirait qu'il dort sur le terrain, mais.
Ah bah Balotelli,
il est toujours là pour mettre au fond.
Quand il a envie de jouer, il joue.
À mon avis, quand on est entraîneur, ça doit être compliqué d'avoir Balotelli sous ses ordres.
Oui, il y a Cannes qui est pas loin, il y a Monaco.
Mais bon, quand il a une occasion, il la met au fond.
Il la met au fond.
Oui, oui. Bah s'il veut la mettre au fond, des fois.
Oui, oui. Des fois, il va rater la ratable, mais des fois, il va marquer un but impossible, quoi.
Allez, deuxième page de pub, deuxième pause musicale, et on parle ensuite de l'équipe de France.
De Didier Deschamps.
Et on y va. Et Didier Deschamps notamment.
Vivez votre région.
Les amis, je viens de me faire plaisir à la boutique Bellamy à Rambouillet. J'y trouvais déjà des looks sympas, avec barbour et un éventail de chemises pour toutes les circonstances. Et pour ce printemps, je viens de m'offrir un total look Tommy Hilfiger. C'est un bon sportswear, c'est de bonne facture, c'est pour vous aussi, j'en suis sûr. Une offre élargie de la marque Tommy Hilfiger, ça vaut le détour à la boutique Bellamy. Un centre de la guirlande de Julie, à Rambouillet.
Vous voulez devenir propriétaire dans un cadre rural avec une qualité de vie exceptionnelle, avec des équipements adaptés, une école, niveau maternel et primaire, des équipements sportifs, une médiathèque, une salle polyvalente et des associations dynamiques? Pont-Évrard, à 3 km de Saint-Arnoult en Yvelines, est un village dynamique, résidentiel, adapté pour accueillir votre famille. Il est desservi par des lignes de bus régulières et situé à proximité d'une gare routière vers RER et TGV et de l'autoroute A10 à 11. Alors découvrez le lotissement Lorée du Bois en lisière de forêt à Pont-Évrard. Et il est éligible au prêt à taux zéro. Contactez la mairie, 5 places de la mairie, au 01 30 41 22 13. 01 30 41 22 13. Changez de vie et devenez ivre et pontin.
Attention, n'hésitez plus, les derniers lots sont à vendre à Pont-Évrard. Alors appelez rapidement le 01 30 41 22 13, 01 30 41 22 13 et devenez ivre et pontin.
Cool.
l'équipe de France, donc samedi prochain contre la Bulgarie. On va rappeler quand même que l'équipe de France avait bien commencé cette saison en atomisant les Pays-Bas 4-0. Puis il y a eu ce couac. Hein, contre le Luxembourg 0-0, ce qui fait que l'équipe de France à nouveau se refait peur, hein, même si elle a un petit point d'avance sur la Suède, elle a 17 points, la Suède 16, les Pays-Bas 13, la Bulgarie 12, le Luxembourg 5 et la Biélorussie 5. Il reste donc 4 matchs, notamment la Suède qui jouera les Pays-Bas, donc ira aux Pays-Bas pour la dernière journée, et qui recevra le Luxembourg samedi, en même temps que l'équipe de France jouera en Bulgarie avant de recevoir la Biélorussie au Stade de France. Messieurs,
bon, je pense que
on va les gagner en Bulgarie.
Si
la Bulgarie est un
dans ce groupe-là, je pense que l'équipe de France et la Suède vont passer. La Suède sera deuxième, j'espère. Ouais. Et ils seront le meilleur deuxième, donc ils iront certainement.
En tout cas, il y a le même goal average, il y a la même différence de.
Mais je pense que
la Suède a un but de plus que l'équipe de France.
Là, contre la Bulgarie à Sofia, je pense qu'on peut quand même gagner. Après, il y a la Biélorussie, on peut gagner aussi, donc ça peut faire 6 points. On peut retrouver la.
Oui, parce qu'on imagine quand même mal cette génération. Aller en Coupe du Monde quand même. Oui. Alors bon,
ça c'est dommage.
Elle est peut-être un peu parfois, elle cesse peut-être un peu aller, comme le match contre le Luxembourg, hein, où on n'a pas senti très très concerné, même s'il y a eu un maximum de réussite aussi pour le Luxembourg.
C'est vrai que l'équipe de France, quand on voit la prestation face aux Pays-Bas, et puis après, quelques jours après la prestation face aux Pays-Bas.
Un peu plus émoussé, alors c'est vrai qu'il y a un peu de réussite aussi, voilà, c'est un tour. Mais enfin bon.
Non, mais bon, le gardien de Luxembourg,
il a fait son match. Hein.
Oui. Et à 3 cm près, on prenait un but.
Oui, en plus, paradoxalement, c'est un match qu'on peut perdre.
C'est
quand même assez incroyable.
Donc, ça aurait fait tâche.
Donc, c'est ça qui se fait peur. Quoi qu'il arrive, déjà, le 0-0 contre le Luxembourg.
Mais c'est vrai que si l'équipe de France, avec la génération qui est en train de se mettre en place,
joue les barrages, c'est incroyable.
Ça la fout mal. Plutôt facile sur le papier.
Oui, dans l'ensemble, parce que les Pays-Bas, c'est plus que c'était. La Suède, bon, ça reste une bonne équipe. Quand même,
mais les petites équipes justement sont surmotivées contre des grandes équipes, hein, la preuve.
C'est plutôt qu'elles jouent derrière, quoi.
Puis les petites équipes jouent derrière,
le Luxembourg.
Ça la joue derrière, ils procèdent en contre, il suffit d'un contre et puis on se fait avoir. Hein. Mais c'est vrai que les petites équipes maintenant déjà commencent à être plus meilleures qu'avant. Je veux dire, le Luxembourg, on les avait pas vus à ce niveau depuis combien de temps. Donc faut faire attention, c'est souvent des matchs pièges. Mais l'équipe de France va se qualifier.
Oui.
On a confiance en Didier Deschamps.
Il faut aller là-bas pour gagner. Hein. Faut pas se dire on va essayer
de prendre. Oui. L'équipe de France est là-bas pour gagner.
Faut aller en vainqueur.
Bon alors non, il n'était pas très très content auprès d'Didier Deschamps parce que certains joueurs comme Nabil Fekir par exemple ne feront pas partie de ce groupe.
Didier Deschamps,
on peut effectivement se poser des questions.
Didier Deschamps, c'est un entraîneur sélectionneur. J'ai très souvent défendu, mais les choix de la liste de jeudi, si je dis pas de bêtises. Prendre Payet. Prendre. Rappelle-moi. Non, mais il y avait un autre joueur. Enfin bref.
Dire Thauvin, s'il te plaît.
Oui, prendre Thauvin, voilà. J'avais oublié, mais voilà.
Comme par hasard, les Marseillais.
Comment j'ai pu oublier un Marseillais, pardon. Ouais. Mais ne pas prendre Fekir vu son début de saison, ne pas prendre Martial qui marche sur la première ligue, c'est bizarre.
Alors je vais te
on
répondre.
On parlera pas de Benzema.
Je vais te répondre comme je t'ai répondu hors antenne.
Dis-moi.
On connaît Didier Deschamps, il marche à l'affect.
Il a un groupe qui est formé
depuis 2014.
Enfin, il a un groupe.
Il aime jouer avec des joueurs avec qui connaît, qui ont avec lui.
Tout à fait.
Dimitri Payet, il a joué à l'Euro avec lui.
Il a pas pris le dernier rassemblement.
Parce qu'il était blessé.
Il était blessé.
Il était moins bon, mais il est toujours moins bon.
Anthony Martial à l'Euro, il était pas très bon. Il a fait des prestations médiocres, donc du coup, il a un peu mis de côté. Il revient, il le prendra au match amico, et si ça marche, il le prendra.
Tu connais comment est Didier Deschamps ou pas?
Oui, je la regarde.
Si tu aurais la première ligue, Anthony Martial, il marche dans son couloir gauche. Sur la première ligue.
Je suis aussi d'accord avec toi pour dire que Payet fait un début de saison moyen.
Médiocre.
Il a été blessé, faut pas l'oublier. Mais tu peux pas taper sur Florian Thauvin qui tient Marseille. Je suis désolé.
Ça, c'est vrai.
Je peux te dire que sur l'année 2017 civile, il a des très très bonnes stats.
On est passé pas loin de la correctionnelle un peu plus. Il nous reprenait Patrice Evra. On est de la chance.
N'exagère pas non plus.
Maintenant, soit dit en passant, Mendy est blessé jusqu'à la Coupe du Monde.
Oui, il s'est fait les ligaments croisés.
Mendy s'est fait les croisés, ça pue pour la Coupe du Monde. Donc, il y aura Kurzawa. Dis. Ce sont des arrières, t'as d'autres joueurs à mettre à la place, il a le temps de revenir.
Après d'être à son meilleur niveau, peut-être pas.
De toute façon, je pense que son groupe, il intégrera des joueurs
comme tous les entraîneurs.
Voilà, tout à fait.
On a connu plusieurs entraîneurs.
Son groupe de base,
Laurent Blanc était pareil, Domenech était pareil,
Jacques avec Gary,
oui,
mais de toute façon, l'équipe de France, elle a tellement de joueurs potentiels
potentiellement sélectionnable que tout le monde toujours commentera.
Alors, voilà, j'ai dit l'argument de Deschamps, c'est que Fekir est pas mobile par rapport donc.
C'est
son argument. Il ne peut pas jouer à droite.
Ça c'est les arguments à la noix. Benzema dans une procédure judiciaire, on va pas le prendre. La procédure est terminée.
Non mais on sait qu'il y a incompatibilité du joueur entre Benzema et Deschamps.
Mais on peut se poser la question de Thauvin tout de même parce que Thauvin il a un caractère un peu particulier. Et puis qu'il soit amélioré avec là.
Au niveau européen et mondial, il a peut-être pas l'expérience.
Philippe, on va pas se mentir, l'important pour jouer au football, c'est le terrain. C'est pas ce qui se passe, les relations avec l'entraîneur, c'est pas ce qui se passe en dehors, c'est sur le terrain que ça compte.
Mais si on prend d'accord avec toi, mais la relation avec l'entraîneur, c'est très important.
Oui,
c'est
mais bon,
la relation dans un groupe, c'est très important. Tu crois que France 98 il gagne la Coupe du Monde, pourquoi? Parce qu'ils s'entendent tous bien,
c'est tous des problèmes. Il y a Juliette qui
est. C'est parce qu'ils s'entendaient tous bien et que Jacquet, paraît-il, est enfermé dans un placard et c'est les joueurs qui faisaient l'équipe. Alors,
non, ça c'est exagéré. Quand on voit les yeux dans les bleus, c'est pas ça.
C'est une façon de parler.
Si on
mais quelque part.
Juliette, t'es supportrice du PSG, je vais donner un joueur. Levin Kurzawa, pourquoi on le prend? On va parler d'un gros débile parce que c'est ce que c'est. C'est un gros débile qui va faire.
Mais tu le connais personnellement,
tu connais Kurzawa, enfin. Il a déjà marqué des buts.
Est-ce que tu es au courant de ce qui s'est passé?
Et alors, c'est sa liberté. Alors, il est chez lui. Et cet imbécile qui a pris, qui a envoyé, qui a fait.
Pourquoi il prend Kurzawa?
Kurzawa, parce qu'il joue bien.
Parce qu'il n'y a pas d'autre choix.
Voilà, et aussi, il n'y a pas d'autre choix. Mais enfin, que cet imbécile qu'il a filmé pour faire une cassette après contre Deschamps. Juliette. Moi je dis c'est un débile ce gars. Simplement,
on a eu l'occasion.
C'est comme si je venais chez toi, je faisais une cassette et je mettais
tu te
sur.
De Serge Aurier,
tu pas attends, écoutez, faut pas. Mais Serge Aurier, c'est autre chose encore. Faut pas s'arrêter à ces trucs là en fait.
Tu vois,
je dis les journalistes qui parlent de Kurzawa, ce sont des véreux. Ils savent pas parler. Si vous voulez parler de foot, venez ici avec Philippe. Mais bon, les autres, ce sont des véreux. Ils sont là juste pour casser les joueurs, pour les enterrer, leur mettre la tête sous l'eau, et après, ils sont tout contents parce qu'ils ont fait quelque chose de bien.
N'écoute pas les journalistes à la télé si ce sont des véreux.
Mais faut les écouter justement pour les reprendre après. Ah oui, faut les écouter pour les reprendre après.
Les arbitres, les journalistes, le football français a un gros problème à t'écouter.
Je ne pense pas. Je serai journaliste, je ne ferai pas de mal aux joueurs.
Amiens Lille, il s'est passé des choses importantes malheureusement hier, grave. Je crois qu'il y a 5 blessés très graves.
Oui, il y a eu lors du match Amiens Lille un incident à la 15e minute. Lille venait de marquer un but. Les joueurs ont été fêtés devant la tribune et bon.
Ils sont appuyés sur quelques
spectateurs qui sont appuyés sur. Voilà. Et il y a donc 29 blessés, dont 5 très grave.
Après, faut dire que le stade de la Licorne
est assez vieux.
Non, c'est sûr.
La barrière était déjà branlante.
Donc, qu'est-ce qui va se passer? Amiens va jouer ses matchs.
De toute façon, le match a été arrêté. Il sera reporté.
On n'en sait
pas plus. On n'en sait pas plus. Lille menait 1-0. Donc,
on va remettre en question. Voilà, Amiens qui risque d'aller jouer à Beauvais ou ailleurs.
Oui, c'est ça.
C'est pas
de toute façon, c'est vrai qu'il faut faire des travaux dans ce stade. Il paraît qu'il est le stade de la Licorne. Il est un peu
bon, le président Macron va s'en occuper, c'est ça.
Oui, je pense.
Voilà, on blague. Allez, merci à tous et à tous.
Les supporters marseillais.
Oui. Et on ne sait pas. Ouais. C'est vrai de Marseille, Amiens. Enfin, voilà. Merci en tout cas à toutes et à tous pour votre participation très passionnée.
Et vive les journalistes.
Premier tribut.
Mais je ne suis pas contre tous les journalistes, mais il y a quelques-uns qui sont des imbéciles. Allez, c'est tout.
On fait la paix.
Allez, bon dimanche à toutes et à tous.
Je me demande même s'ils sont. Et
on se retrouve donc.
Pensez à aller au champ de course, il y a des très belles courses, ou à Chantilly, comme vous voulez. Si vous êtes près de Rambouillet.
Et on se retrouve dimanche prochain pour Tribune Sport. Et puis pour le prochain Tribune Foot, ça sera le dimanche 5 novembre. Merci à Jean-Pierre d'avoir été aux manettes ce matin. Et on vous laisse avec la suite des programmes sur l'antenne d'Herveux. Bon dimanche à tous.
10h-11h sur RVE. Retrouvez toute l'actualité sportive locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport avec Philippe Carnut.